RMC, 9h midi.
Alain Marchal, Olivier Truchot,
les grandes gueules.
1, 2, 3, 4.
En direct sur RMC, RMC Story, les grandes gueules avec vous, bien sûr. Vous réagissez au 32-16, vous prenez la parole. Joël Dagosséry, la coach de Villela, tout comme Antoine Diers, le consultant juridique, et Bruno Poncet, le cheminot. C'est la deuxième heure des GG. Dans un quart d'heure, on parlera politique. Les craintes de Gérald Darmanin, candidat à l'élection présidentielle, d'avoir Jean-Luc Mélenchon contre Marine Le Pen ou Jordan Bardella. Bref, LFI contre le RN. Scénario du pire ou scénario du meilleur? Qu'est-ce que vous en pensez? Vous venez en parler avec nous, puis on évoquera les rumeurs autour du couple Macron via un livre et des indiscrétions fondées ou pas sur la fameuse gifle présidentielle. Est-ce qu'une actrice iranienne est à l'origine de cette histoire? D'abord, on va regarder, on va plutôt de nouveau s'intéresser à l'enseigne Master Poulet. L'enseigne Master Poulet, on a beaucoup parlé du combat du maire de Saint-Ouen, Karim Bouamran, contre l'installation de Master Poulet. Finalement, Master Poulet s'est implanté. Mais là, on est donc à Saint-Ouen. Sauf que là, c'est d'une autre enseigne dont on va parler. C'est celle qui était ou qui est à Argenteuil.
Alors, tout d'abord, je voudrais rassurer ma famille et mes amis. Moi qui ai consommé en direct sur BFM TV Master Poulet, un pilon de poulet de Master Poulet, je vais bien jusqu'à présent. J'ai pas de problème de santé. Alors, il se trouve que le Master Poulet, c'était celui de Boulogne-Billancourt et non d'Argenteuil. Donc, ça donne une indication peut-être qu'il y a un vrai problème à Argenteuil. Alors, effectivement, il y a un vrai problème puisque la préfecture du Val d'Oise a estimé que ce restaurant représentait un danger grave et imminent pour la santé publique. Donc il a été fermé. Dans les cuisines, plusieurs poulets étaient conservés dans des bacs en plastique sans respecter les conditions de stockage attendues. Les agents de l'État ont également constaté une absence de maîtrise des températures sur des produits cuits avec un refroidissement jugé insuffisant. Plus inquiétant encore, en poussant la porte de la chambre froide, ils sont tombés sur 80 kilos de poulets périmés, ainsi que des préparations dont les dates limites de consommation étaient dépassées. Ils pointent aussi des locaux, du matériel et des équipements sales et mal entretenus. Bref, ça faisait beaucoup. La préfecture a ordonné la fermeture administrative immédiate de l'établissement. Alors effectivement, c'est pas le Master Poulet de Saint-Ouen, celui qui a déclenché une guerre des gauches entre d'un côté le maire Karim Bouamran qui est contre l'installation de ces Master Poulets et de l'autre des insoumis comme Bali Bagayoko et Eric Coquerel qui sont venus défendre le Master Poulet. D'ailleurs, ces deux-là, on les entend plus là. Là, ils ont pas parlé du Master Poulet d'Argenteuil parce qu'effectivement, on est au cœur de peut-être d'un des problèmes, c'est les conditions d'hygiène, d'où vient le poulet, ce qu'on mange, est-ce que c'est mauvais pour notre santé, oui ou non?
Parce que là, ça faisait peser un danger grave et imminent pour la santé publique.
Ouais, c'est pas rien.
Non. Et le préfet est connu maintenant, c'est ce que je disais, Philippe Court, qui c'est le préfet du Val d'Oise, parce qu'il est vraiment parti en guerre contre ce qu'il appelle les restaurants salubres du département, c'est-à-dire le manque d'hygiène. Joël Dagosséry.
Quand le maire de Saint-Ouen a dit que Master Poulet, c'était pas bon pour la santé, etc., on l'a accusé de classicisme, ou je ne sais pas, autre terme de gauche pour expliquer que il était contre les pauvres. Moi, j'ai remarqué quelque chose. Il y a tout un pan économique qui s'adresse aux classes populaires et notamment aux classes populaires de banlieue. Et ils ont un slogan, un terme qu'ils accolent à leur slogan, c'est le peuple. Donc, la nourriture du peuple, parler comme le peuple, etc. En général, je m'adresse là en tant qu'ancienne banlieusarde de très longue date et aussi aux personnes qui vivent encore en banlieue. Sachez que derrière, il y a un marketing très bien pensé qui est aussi du capitalisme. D'accord ? C'est important de le comprendre. Le capitalisme, c'est pas que les autres, c'est aussi Master Poulet qui enchaîne les ouvertures de restaurants toutes les 4 secondes. Par contre, ce capitalisme-là, ça dérange pas LFI, ça dérange personne parce que c'est soi-disant la nourriture du peuple. La nourriture du peuple, moi je veux bien, et je comprends que Master Poulet, enfin moi je vais manger dans les fast-foods, j'ai pas de problème avec ça. En plus, je suis pour la liberté d'entreprendre.
C'est
donc
le
allez-y.
Pilon de poulet à 1 euro. Hein.
Voilà, mais il faut aussi savoir que à cet enchaînement d'ouverture de restauration, ce sont des franchises pour la plupart. est-ce que les personnes qui se saisissent de cette franchise sont en capacité, de manière sanitaire, d'assurer cette commercialisation de produits frais et cuisinés. Donc moi, je me pose des questions sur ça, et c'est intéressant que les préfets aillent regarder ce qui s'y passe, parce que je te dis, ça s'ouvre à tour de bras, et c'est du capitalisme. Donc arrêtez de me sortir que c'est pour les pauvres, etc. C'est du capitalisme à marche forcée.
Alors, qu'est-ce qu'on fait de Master Poulet ? Alors là, rappelons que c'est une franchise, donc là, c'est un restaurant. Ça ne veut pas dire que tous les Master Poulets servent des produits qui sont dangereux pour la santé.
Moi, je suis incapable d'aller manger dans une enseigne que je considère un peu zarbi, quoi. Les kebabs un peu louches, les Master Poulets, les trucs comme ça. Moi, j'y vais pas. Vous me ferez pas manger ça. J'y arrive pas. Je me dis toujours. Ouais, qu'est-ce qu'ils vont me filer à bouffer ? Est-ce que je vais pas être malade ?
T'as pas confiance dans les règles d'hygiène ?
Je n'y arrive pas. Et cet exemple-là me conforte dans cette réticence à aller manger, pour ma part, dans ce type d'enseigne. Alors déjà, bravo au préfet. Oui, il faut faire la chasse à tous ces trucs sales où tu mets en danger les gens. Et je pense qu'il devrait y en avoir beaucoup plus de fermés et qu'on en fait pas assez. Et puis ensuite, Master Poulet, ils ont bien joué la polémique avec Karim Bouamran à Saint-Ouen. Là, je pense que la polémique va pas être bonne pour eux et ça va retomber un petit peu. Donc moi, franchement, vous m'emmènerez pas manger dans ces trucs-là. Voilà. Et on a l'exemple aujourd'hui.
Donc d'accord, ça te conforte dans ton choix de pas y aller.
Ouais.
Non, mais t'as énormément de Grecs, ça se passe très bien.
Enfin, oui, mais moi, j'ai mes quelques kebabs.
Tu choisis tes enseignes, quoi.
Je sais que j'y
vais. Même chez Master Poulet, d'ailleurs.
Après, tu sais pas, tu t'en sais rien parce que tu vas pas dans les cuisines.
Tout se passe très bien.
Dans les arrières-cuisines, j'ai envie de dire.
Y compris d'autres bistrots, d'ailleurs, aussi.
Oui, parce que.
C'est pas une exclusivité, Master Poulet, les cuisines insalubres. Ouais.
T'as des restaurants
qui ont été fermés.
Parce que les cuisines régulièrement on peut
sur la côte, juste avant l'ouverture de la saison des estivales, d'ailleurs.
Moi, Master Poulet, j'y vais pas régulièrement, mais j'ai déjà mangé plusieurs fois. Celui d'Anières. Il y en a deux à Anières, en plus. Il y en a un à côté de chez moi, qui est toujours du monde. Et en fait, je vois tout le monde là-bas. En fait, quand on dit nourriture pour les pauvres, dans certains discours.
Là, les pauvres, ils mettaient leur vie en danger, là.
Hein. Ouais, mais c'est pas les pauvres,
c'est
en fait.
Pas les pauvres,
Joël, ce qu'elle dit, elle a raison.
Les
dans les discours que t'entendais de certains pour défendre ou pour critiquer,
nourriture
des pauvres. Bah, c'est pas vrai. L'autre fois, moi, j'ai mangé avec la police municipale à côté. Donc, je veux dire.
Des nantis non plus, les policiers municipaux.
Bah, c'est pas que c'est des nantis, c'est qu'en fait, on n'est pas sur des gens qui peinent à vivre en fin de mois.
Il y a plein de jeunes. Enfin, tous les étudiants, enfin, pas tous les étudiants, mais il y a beaucoup d'étudiants vont manger.
Non, mais parce qu'en fait, au lieu de passer à une époque, c'était Otakos. Otakos, tout le monde disait machin et tout. À cause aujourd'hui, ils ont quasiment tous fermé, tu les vois plus.
Ouais,
parce qu'en fait, avant, les mecs, ils bouffaient
disparu,
ça. Ouais. Aujourd'hui, la mode est au poulet, donc du poulet frit, poulet rôti, et c'est comme ça. Et moi, je viens Master Poulet, ils déblitent, moi, je vois les Master Poulet où je vais, ils débitent tellement de cam qu'ils n'ont pas le temps de sécher dans l'arrière-cour et devenir dégueulasse, en fait. Ils débitent
après,
tellement
le
de cam.
Après, le poulet vient d'où ? D'Espagne ?
Alors, ça, c'est le problème. Moi, l'autre fois, j'en ai parlé avec un pote à moi, le seul truc que j'ai avec eux, moi, c'est je ne sais pas d'où vient la viande. J'ai regardé quand j'y étais, j'ai regardé s'il y avait le panneau. Alors après, est-ce qu'ils ont l'obligation pour du
je
poulet ?
Je crois qu'ils ont une obligation.
Parce que quand tu vas dans chez ton boucher, le bœuf est peut-être l'agneau, je ne sais quoi, parce que quand tu vas chez le boucher, t'as jamais la provenance du poulet, t'as d'autres trucs. Après, c'est un cas unique, celui d'Argenteuil. On attendra de voir. Moi, pour l'instant, c'est un cas unique. On a des restaurants à Paris qui ferment pour ces trucs-là. T'as des kebabs. Moi, ce que je voudrais bien aussi, c'est que le préfet du 95 et de d'autres régions de France fassent plutôt la chasse à ces restaurants à emporter quoi que ce soit. Où il y a jamais personne dedans, où je vois jamais un scooter partir avec un truc. Par contre, ils existent dans certains quartiers et tu sais très bien pourquoi ils sont là. C'est plutôt pour blanchir des ronds.
Ouais.
C'est un peu l'histoire.
C'est un autre problème.
Et ça, on les ferme pas, ceux-là. Moi, je trouve ça un peu bizarre parce que moi, dans la rue, par exemple, chez moi, j'en vois. Hein.
Je pense qu'ici, mais en fait, ils sont peut-être aussi. Oh, mais dépassés
plutôt,
par
moi, je salue plutôt la volonté du préfet parce que
oui,
de vouloir partir en
volontaire.
Guerre contre aujourd'hui toutes ces enseignes qui ouvrent à tour de bras. Alors, je sais pas si c'est des blanchisseuses ou pas, mais. Tu vois pas les cuisines, tu vois les cartons arriver le matin, de temps en temps, tu sais, quand tu pars très tôt, à 5h30 ou à 6h, et tu vois les cartons qui sont posés devant l'enseigne ou derrière, mais tu sais pas de quand ils datent, tu sais pas d'où ça vient. Et là, lorsque le préfet dit, face à ces ouvertures qui se multiplient, des shops, de petits restaurants, il faut partir en guerre contre les conditions sanitaires qui sont pas respectées,
après,
les restaurants insalubres. Il le dit du département. Donc ça prouve bien qu'il est face
à... Oui, mais attention aussi, parce que,
Joël.
Moi je te dis, je suis pour la liberté. liberté d'entreprendre et j'aimerais qu'on arrête de casser
la liberté d'empoisonner.
Oui, mais d'accord, mais partir en guerre contre tous ces trucs qui ouvrent, etc. Enfin, c'est aussi derrière, il y a des commerçants, il y a des gens qui essayent de créer leur propre emploi.
Mais là, on est juste sur Donc, on est sur des règles sanitaires.
Oui, mais je veux bien
vérifier.
Oui, non, mais je suis d'accord qu'on puisse regarder. Mais ce truc de partir en guerre contre des gens qui veulent travailler, moi, enfin, j'aime pas trop. D'autant plus que je soupçonne un petit peu quand même que comme ce sont des enseignes qui s'adressent ou qui sont créées par des personnes peut-être résidant en banlieue ou etc. Je soupçonne qu'on ne supporte pas. On ne supporte pas que ces personnes osent se développer.
Et osent réussir.
Et osent réussir, mais à grosse échelle, pas juste j'ouvre mon kebab et tout, à grosse échelle. Donc, je dis, soyons nuancés. Soyons nuancés sur ça.
Le poulet, il est moisi dans l'arrière-cour.
Ouais, non, mais arrête, ils sont pas tous.
Mais non, mais toi, si tu trouves du poulet moisi, tu fais faire.
Non, mais là, c'est vrai. Si les règles, elles sont pareilles pour tout le monde, peu importe celui qui tient le restaurant.
Ah oui.
Si c'est un restaurant traditionnel,
danger grave et imminent pour la santé publique.
Oui, non, mais c'est bien qu'il ait été fermé, mais je veux dire ce côté de je vais partir en guerre contre.
Oui, je suis assez d'accord, faut pas qu'il parte en guerre uniquement.
Il va rentrer dans tous les McDo, il va rentrer dans tous les Quick, dans tous les Burger King, dans tous les KFC, il va rentrer dans tout.
Il a juste dit, je pars. Il dit, voilà, c'est une guerre qui est menée contre les restaurants insalubres du département.
Oui, dans ce cas-là, il faut que les inspecteurs. Là, je vais suivre Joël. J'espère que les inspecteurs du préfet du Val d'Oise vont dans tous les restaurants et ne ciblent pas uniquement des restaurants particuliers.
Et Boine Ran, il venait chez vous en train de nous expliquer que Master Poulet c'était grave. Enfin, tu sors du métro, parce que moi, Saint-Ouen, j'y ai bossé, j'y vais depuis que je suis gamin. Tu sortais du métro, tu tombais sur Burger King. Oui. Je vois pas ce qu'il y a mieux entre Burger King et machin, tu vois. Et puis Master Poulet. Puis à un moment donné, il faudra peut-être aussi qu'on nous explique. Si tu veux faire la guerre à un moment vraiment sur la malbouffe, ben, je sais pas pourquoi KFC a le droit d'ouvrir en France. Parce que si tu veux un truc calorique et si tu as envie de bouffer 3000 calories sur un pas, c'est la vie, hein.
Non, mais ça, c'est autre chose.
Didier Giraud confirme qu'il y a obligation pour toutes les viandes, mettre effectivement l'origine de traçabilité, c'est l'origine de toutes les viandes. Effectivement, si ton master poulet ne met pas précisément d'où vient le poulet, c'est un problème.
Je l'ai pas vu et je sais pas. Moi, vu que le maire d'Anières a essayé de le faire fermer comme Boine Ran, je pense que les mecs de chez moi, le master poulet à d'Anières, je pense qu'il est carré de chez carré. Hein. À mon avis, tu trouveras pas une luciole derrière ou un ragondin. Ça, c'est sûr.
Sur l'ouverture.
Alors, on passe de la luciole au ragondin.
En plus, le ragondin, maintenant, on sait qu'il peut transmettre l'antivirus.
Non, c'est pas la ragondin, c'est le rat tout court. Attends, le ragondin, c'est une belle bête, qui est très mignonne.
Oh, bah tiens, c'est
très bon en pâté.
C'est les
ragondins, t'en as plein dans les lacs du bois de Boulogne.
Et ben bah, ouais, puis c'est très bon en pâté.
Et ça se mange très bien.
Ouais. Ah ouais, c'est très bon.
Les pâtés de ragondin.
Bien sûr.
C'est une viande blanche.
Jamais goûté.
Une viande blanche, très
bah oui, ça mange que de l'herbe et de la flotte. Franchement,
c'est. D'ailleurs, es-tu sûr que c'est bien du poulet chez Master Poulet? En réalité, c'est Master Ragondin.
Ah bah c'est ça que je vais ouvrir. Je vais ouvrir un Master Ragondin, un Master
Edition. On retrouve le fil
sur ces discussions sur les petits restaurants comme ça, je suis toujours bluffé que pour être coiffeur, il faut avoir un brevet professionnel. Tu dois avoir un BP, un diplôme professionnel.
Pas barbier.
Pour ouvrir un resto, t'as pas besoin de qualification professionnelle.
Oui, n'importe qui peut ouvrir un resto.
En réalité, pardon, je pense que c'est moins dangereux d'être coiffeur, on peut rater ta coupe, que d'ouvrir un petit truc où tu laisses du poulet.
C'est quand même dangereux. Tu vois des coupes de rugbyman maintenant où les mecs sont rasés sur les côtés avec une nuque longue. C'est quand même, moi je trouve que c'est quand même dangereux pour la santé, en tout cas pour mes yeux.
Moi, j'entends la liberté d'entreprendre. Mais là, tu parles. Tu
pourrais mettre en place un permis de restaurer.
Bah ouais,
une
formation sanitaire minimum. C'est-à-dire que je suis pas partisan des normes de l'administration, mais là on parle quand même de la santé.
On a Alain qui nous appelle d'Aubonne dans le Val d'Oise justement. Oh, bonjour Alain.
Bonjour les GG.
Vous vouliez réagir à ce qu'on disait autour du Val d'Oise et la volonté du préfet de faire des raids sanitaires dans les restaurants, alors dites-moi.
Tout à fait, moi je trouve que le préfet du Val d'Oise, son action est totalement légitime. Après, son action est certainement pas menée contre Master Poulet, mais il est mené contre tous les commerces. Aussi bien petites les commerces de restauration rapide ou autres, à proximité de chez moi, il y a eu un Carrefour qui a été fermé partiellement pour non-respect de règles d'hygiène, et une boulangerie à proximité de chez moi, à 4-5 minutes, à pied, même pas, qui a été fermée à deux reprises, et là, elle ne rouvre pas depuis un certain laps de temps, pour des conditions d'hygiène également non respectées. C'est-à-dire qu'ils ont retrouvé des rongeurs en arrière-boutique, des rongeurs morts. Donc, et là, je trouve que l'action du préfet du Val-d'Oise est totalement légitime, parce que, excusez-moi du terme, moi j'ai 59 ans, je suis originaire de l'ouest de la France, de Bretagne, j'ai toujours vécu en région parisienne, j'ai vécu dans la banlieue, hein. J'ai vécu sur Garges-et-Gonesse, et j'ai pas l'impression qu'à l'époque, ou peut-être il n'y avait pas ces contrôles, ces règles, cette réglementation, mais j'ai pas l'impression qu'à l'époque, les commerces prenaient des consommateurs pour des, excusez-moi du terme, pour des pigeons, pour des cons, excusez-moi du terme, parce que bon, ouais. Quand je dirais, moi je fais pas partie de la, je fais partie de la classe moyenne, je fréquente tous les commerces, j'ai pas d'a priori pour tel ou tel commerce. Et qu'il faut quand même, il y a une confiance, il y a un contrat qu'on passe avec le commerçant chez qui on va faire ses courses, qui ne nous vende pas tout et n'importe quoi et qui respecte les règles.
Donc vous dites, le préfet a raison de faire un peu le ménage, quoi, en fait.
Totalement.
Et il s'attaque donc à tout type de commerce, parce que là, on parle d'une fermeture d'une boulangerie.
Ah oui, tout type de commerce, oui. À partir du moment où les conditions d'hygiène ne sont pas respectées,
bien sûr.
Il y a une règle. C'est comme le code de la route, vous ne respectez pas la règle, boum! Il y a la sanction qui tombe.
Non, mais c'est surtout qu'en
ça
plus, en fonction
de... Je crois que n'importe quel Français de n'importe quel endroit est totalement d'accord avec ça.
En plus, en fonction de ce que vous ingérez, vous mettez quand même votre vie en jeu. Quoi.
Tout à fait, c'est ça.
Là, on ne plaisante pas. Quoi,
nous aussi, dans 92, on a ça, parce que moi, il y a un boulanger qui a fermé à côté de chez moi, pareil, pour des problèmes sanitaires. Et en fait, c'est vrai que moi, je le vois aussi à côté de chez moi dans le 92, où il y a quand même pas mal de contrôles, et tu as beaucoup de commerces qui ferment à un moment donné avec une étiquette sur la porte en disant, contrôle passé au suivant. Quoi.
Merci Alain d'avoir été avec nous, bonne journée.
Merci à vous.
Salut Alain, à bientôt dans les GG, dans les grandes gueules. Il est 10h20, on a posé la question, est-ce que vous faites confiance à ses enseignes. Antoine, lui, il est plutôt dubitatif. Il dit non, moi je choisis, je regarde. On va voir ce que vous en dites justement sur les réseaux sociaux. Non, vous ne faites pas confiance à 89%. Dans un instant, on passe à la politique, Master Présidentiel 2027. Qui sera le maître? Qui ira à l'Elysée? Jean-Luc Mélenchon ou Marine Le Pen? Apparemment, c'est le scénario là, plausible à l'instant T. Gérald Darmanin n'en veut pas, il faut l'éviter. Mais est-ce que c'est le meilleur ou le pire des scénarios? Le duel Marine Le Pen-Jean-Luc Mélenchon. 32-16 pour en parler avec les grandes gueules, avec nous sur RMC, RMC Story.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
1, 2, 3, 4. Vous êtes avec les GG, avec les grandes gueules, en direct sur RMC, RMC Story, avec aujourd'hui Antoine Diard, ce consultant juridique, Bruno Poncet, le cheminot, et puis nous sommes avec la coach de vie, Joël Dagosséry. On va parler politique avec la déclaration de Gérald Darmanin, le garde des Sceaux. C'est la crainte de Gérald Darmanin que l'on ne puisse pas éviter le deuxième tour. Jordan Bardella ou Marine Le Pen, il faut attendre le 7 juillet, la décision de justice. Donc Jordan Bardella, Marine Le Pen face à Jean-Luc Mélenchon. Mais du coup, si c'est ce que les Français veulent, c'est une chose. Est-ce que c'est le meilleur des scénarios ou est-ce que c'est le pire des scénarios? 32-16 pour en discuter avec nous.
Voilà ce que dit le ministre de la Justice, qu'on n'entendait pas beaucoup ces derniers temps. Aujourd'hui, je pense que le second tour, c'est donc Monsieur Mélenchon contre Madame Le Pen ou Monsieur Bardella. Et je pense qu'il faut, comme on dit dans le nord de Tourcoing, être bouché à l'Emery pour ne pas le voir. Alain, tu peux expliquer, c'est quoi l'Emery? Moi, je ne savais pas.
L'Emery, c'est une matière, c'était la toile l'Emery, c'est une matière abrasive.
Abrasive, ouais.
Et un petit papier de verre léger, je crois. Ouais,
voilà, donc alors, il faut être bouché à l'Emery. Bouché à l'Emery pour ne pas voir que ça sera Mélenchon, Bardella ou Le Pen au second tour. J'essaie, comme d'autres, d'expliquer qu'il faut un seul candidat si on ne veut pas que ce soit un duel Bardella ou Mélenchon. Alors, deux choses quand même. C'est un, j'ai regardé les derniers sondages d'intention de vote. Pas un seul sondage, mais Mélenchon, Bardella au second tour.
Voilà.
Après, les sondages sont les sondages, mais enfin, c'est quand même une indication, un instant T. Deux, ne soyons pas dupes du petit manège qui est en train de se mettre en place avec deux épouvantails, Mélenchon et Bardella, deux chiffons rouges qu'on agite dans le camp présidentiel pour dire, attention, il faut te mettre en ordre de bataille, un seul candidat, et puis surtout, il faut que les Français, tout de suite, se mettent en place pour faire barrage, soit Mélenchon, soit Bardella. C'est quand même une petite manipulation, faut pas être dupe, ce sont les Français qui décident, et s'ils veulent que ça soit effectivement Mélenchon-Bardella au second tour, eh bien, ça sera leur choix. Et il faut, dans une démocratie, respecter avant tout le choix des électeurs.
Tu as redonné le mot, Olivier, faire barrage.
Voilà.
C'est la grande stratégie des castors de retour. Il faut faire peur, dire que ça va être.
Il y a un double barrage. Mélenchon, à faire, là,
et voilà, Mélenchon ou Le Pen, et braves gens, vous n'aurez plus de choix. Et donc, dès le premier tour, voter pour le candidat du centre. Je crains en plus que ça marche. C'est-à-dire que tout le monde va marcher. Tout le monde espère qu'il y ait du changement en 2027. Et en fait, je crains qu'on nous refasse le même truc. Le candidat du centre, je sais pas lequel, Attal, Philippe ou Darmanin, c'est les mêmes. Ce sont des avatars du macronisme de toutes les façons. Bah qu'en fait, ils se qualifient. Soit face à Le Pen, soit face à Bardella, soit dans une hypothèse impossible face à Mélenchon, et qu'en fait, encore une fois, ça fonctionne, et donc que notre pays se retrouve bloqué pour des décennies dans le centrisme, à force de barrages, parce que les autres, ce serait terrible, ma bonne dame, vous comprenez. Et donc, franchement, moi, je pense qu'il tue le débat politique en faisant ça, en désignant des croque-mitaines, en disant « il faut absolument qu'on soit qualifié face à eux, et il faut absolument que vous votiez pour nous plutôt qu'eux, sinon ce serait la fin du pays. »
Mais c'est pas un programme, ça.
Il n'y a plus de débat. C'est le troisième épisode du barrage des castors, quoi. On en a ras-le-bol.
Bruno.
Ah, là, en plus, Antoine, il oublie juste un truc, il a raison, mais il oublie juste la stratégie de Darmanin, en fait. C'est qu'aujourd'hui, en fait, ils ont Darmanin, Attal, Philippe, bon, Retailleau qui est dans le même sac, et puis plus que quelques-uns d'autres, à un moment donné, t'avais Brune Pivet qui voulait y aller, Berger qui voulait y aller, enfin bon, voilà. Et donc, en fait, là, lui, il dit, il en faut qu'un, parce qu'il sait très bien.
Et
que,
moi.
Si, ouais, et puis alors, ça sera peut-être Darmanin, parce que lui, je pense qu'il va sortir du bois. Darmanin. En fait, ils se disent que n'importe lequel d'entre eux, là, s'il y en a qu'un seul, il peut peut-être se retrouver au deuxième tour et face à soit l'un, soit l'autre, soit Bardella, soit Mélenchon, il pense qu'il va gagner, en fait. Parce qu'il est évident, un truc, par contre, c'est que je pense, moi, réellement, que plus la montagne va s'élever, plus la difficulté va s'élever, plus Bardella va commencer à être compliqué pour lui pour tenir la cadence. Enfin, un débat, on a déjà vu un débat Le Pen-Attal, il avait réussi à être meilleur que Le Pen en débat. Un débat Mélenchon-Bardella ou Mélenchon, qui que ce soit d'autre. Il faudra bien qu'il soit solide en face de Mélenchon, parce que Mélenchon, même s'il a 75 piges, il tient là-haut, il tient là la musique, et puis il est quand même costaud. Hein. Puis bon, il a une caisse, hein, et certains n'ont pas sa caisse. Et moi, je trouve que c'est une stratégie politicienne de dire il n'en faut qu'un, chez nous, comme ça, on peut être... Si tu additionnes leur score présumé, quand tu vois en ce moment dans les sondages, moi, je trouve qu'on est à un an des élections, il peut se passer n'importe quoi. Les candidats qui étaient prévus de gagner, comme des Fillon et compagnie, qui ont pris une cartouche, ou Strauss-Kahn avant, qui ont pris une cartouche hors politique, tu sais pas d'où elle est venue, mais tu sais, ouais. Pour Fillon, on sait très bien de qui elle vient. Mais en fait, tu vois, les cartoucheurs politiques qui arrivent, il pourrait bien arriver des trucs. Mais moi, je pense que c'est vraiment que politicien. Et puis, je pense que Darmanin joue la carte Darmanin pour être ce candidat merveilleux.
Mais il y a peut-être aussi autre chose. C'est-à-dire, il se dit, Jordan Bardella, Marine Le Pen ou Jean-Luc Mélenchon, celui qui sera élu, ce sera pas une élection d'adhésion. Ce sera forcément une élection par rejet de l'autre, et ça n'arrangera pas la situation.
Macron a été élu comme
bien
ça,
sûr. La situation politique.
Comme Chirac en 2002, comme d'autres.
Moi, ça me rend folle, en fait, les prises de parole comme ça. J'ai lu les déclarations de Darmanin. Enfin, je veux dire, on est en médiocratie politique. Bah, excuse-moi, Darmanin nous fait part de ses craintes sur l'avenir. Mais au poste que t'occupes depuis des années, t'es censé nous façonner l'avenir, gars. Pardon, je suis désolée. T'es censé nous façonner l'avenir. C'est-à-dire, t'es censé, quand tu prends la parole, quand tu sors du palais, tu vois, t'arrives sur la place et tu dis, ouais, mesdames et messieurs, voilà où je veux vous emmener. Moi, ministre, voilà où je veux vous emmener. Le type, il dit, les craintes sur l'avenir. Et j'ai lu ces petites craintes sur l'avenir. Oui, on aura alors Mélenchon, ou Bardella, Le Pen, au second tour. Les Français vivent des difficultés et personne ne le prend en compte. Mais attends, apprends-moi des choses que je ne sais pas. Ouais. Je veux dire, qu'est-ce qui différencie là, dans sa prise de parole, Gérald Darmanin de Gérald Cruchot? Pas Truchot, mais Cruchot, un autre.
Ludovic Cruchot.
Aussi, voilà. Je veux dire, d'un auditeur qui nous appelle. Je veux dire, l'auditeur, il nous appelle demain, il nous dit oui, attention, on aura bien rien.
Oui, les Français vivent des... Joël, c'est une stratégie, tu comprends?
Non, j'arrive pas à mettre.
Darmanin, Attal ou Édouard Philippe seront comptables du bilan d'Emmanuel Macron.
Ça, c'est clair.
Et donc, tu sais très bien qu'en général, les sortants sont sortis à un moment donné. Et pour éviter d'être comptable du bilan d'Emmanuel Macron, qui est jugé, si je l'en crois, les sondages, les études et les réactions au 32-16 assez sévèrement par les Français, eh bien, la planche de salut, c'est l'appel au barrage, et c'est les deux épouvantails que sont Mélenchon-Bardella. Ils vont diaboliser les deux, dire que la France serait perdu si c'était Mélenchon, Bardella, je termine, qui était président. Et donc, certes, nous, on a dirigé la France pendant 10 ans. Certes, vous n'êtes pas très content, mais quand même, on est plus raisonnable. Vous risquez moins.
Et puis, diront qu'on
s'occupera de vos économies. Et notamment, je vais terminer. Ma dimension, ils vont notamment beaucoup parler aux retraités, qui font finalement l'élection, en disant, écoutez, grâce à nous, vous savez, vos économies seront protégées, alors qu'avec Mélenchon, vous serez spolié, avec Bardella, ça sera l'aventure, il veut sortir de l'Europe, etc. Donc, il va y avoir ce discours très raisonnable, je suis d'accord, c'est un enfumage, mais ça peut marcher, comme le dit Antoine.
On a Emmanuel qui va en parler avec nous au 32-16. Bonjour Emmanuel.
Oui, bonjour. Ce n'est pas Ludovic Cruchot. Hein.
Alors,
gendarme
le meilleur ou le pire des scénarios?
Alors, pour moi, ça serait le pire des scénarios, ça c'est certain. Je reste et resterai toujours totalement traumatisé par le 21 avril 2002, ce qui fait que je suis un électeur de gauche. J'ai été militant socialiste pendant plus de 20 ans. J'ai commencé au MJS, j'avais 15 ans. Cette fois-ci, je ne ferai pas. J'ai toujours fait barrage à l'extrême droite. Mais cette fois-ci, je ne ferai pas barrage à l'extrême droite en cas de second tour Mélenchon, Le Pen ou Bardella.
Vous
en cas
quoi,
de second tour LFI, FN.
Vous ferez quoi?
Et je dis bien FN en toute conscience. Je voterai blanc. Je voterai blanc parce que j'estime que la France insoumise est devenue aussi dangereuse que le Front National. Elle est devenue le Front National du côté gauche de l'échiquier politique. Et moi, je ne vote pas Front National.
Oui, mais voyez, Emmanuel, vous, l'électeur de gauche, est-ce que vous en voulez pas au Parti Socialiste, qui n'a rien fait depuis 10 ans, qui ne travaille pas, qui n'est pas capable de sortir un leader, qui n'est pas capable de nous proposer un candidat qui a une chance de gagner? Moi, je trouve que la colère ne devrait pas se diriger contre Mélenchon ou Bardella, elle devrait se diriger contre ces partis traditionnels. Et je mets les LR dessus, les LR qui sont pas non plus capables de se mettre d'accord. Vous avez vu, à peine Retailleau nommé, il y a déjà Copé qui veut trahir et rejoindre Édouard Philippe. Et bon, tout ça n'est pas sérieux. Regardez ce qui se passe au PS. Raison. Boris Vallaud, Olivier Faure, on ne comprend rien. C'est des gens qui n'ont aucune chance de gagner un présidentiel et qui sont là.
Et tu rajoutes le François Hollande et Bernard Cazeneuve.
Mais oui, bien sûr.
Pardon.
Le succès de Bardella et Mélenchon, c'est parce que les autres sont en échec, parce que les autres n'ont pas travaillé.
Surtout, c'est qu'ils n'ont pas de programme. Aujourd'hui, enfin, tu veux dire ce que tu veux, mais le RN, ils ont un programme, tu l'aimes, tu l'aimes pas. Mélenchon a un programme, et les autres, ils ont quoi?
Ils ont un Emmanuel restera chez lui. Emmanuel restera chez lui. Gérald, qu'est-ce qu'il va faire? Bonjour, Gérald. Déjà, est-ce que c'est le meilleur ou le pire des scénarios, alors?
Peu importe, moi j'irai à la pêche deux jours en fait où il faudra voter.
Ah bon,
je n'y crois plus une seconde en fait aux élections présidentielles parce qu'on nous mettra en fait quelqu'un du système, évidemment comme ça a été toujours depuis 40 ans, on nous mettra en fait une personne hyper mafieuse qui sera aux commandes, enfin qui prendra en fait
aux ordres de Bruxelles.
Les directives de Bruxelles, voilà, européennes. On aura évidemment une ingérence européenne dedans qui va être de Bruxelles, qui sera pendant les élections présidentielles. On aura toujours le même scénario avec les médias qui vont évidemment critiquer l'un et critiquer l'autre pour que les Français aillent voter dans la bonne direction. Moi, je n'en peux plus, je n'y crois plus. J'ai fait 2 ans de politique, j'étais chez Reconquête à l'époque, j'y croyais vraiment. Vraiment, je peux vous le dire, on avait à l'époque de véritables têtes d'affiche qui savaient de quoi elles parlaient ou quoi que ce soit. Enfin, moi, j'y croyais en tout cas. Depuis la dissolution, évidemment, on sait ce qui s'est passé avec Marion Maréchal, Zemmour, etc. Et maintenant, je n'y crois plus, je n'y crois plus à aucun parti. Je suis complètement en fait dégoûté de cette politique en France et je pense que l'homme providentiel n'existe pas. Le peuple providentiel, lui, existe, mais il va falloir qu'il se réveille. Et si demain on nous met encore un scénario Mélenchon-Marine ou Mélenchon je ne sais qui, autant qu'on soit dans la merde, vous savez quoi, même peut-être que j'irai voter Mélenchon alors que je suis d'extrême droite pour certains. Dans les prochaines années qui arriveront, la France sera le chaos et au moins on partira en guerre.
Oui, c'est ça ce que j'allais dire. Vous préférez à ce moment-là la politique du chaos, quoi, pour que.
Concrètement, parce qu'il y a.
Qu'on fasse table rase et qu'on passe à autre chose ensuite.
Tant que les Français n'ouvriront pas les yeux, voyez la personne qui est juste avant vous, là, qui y croit encore, en fait.
Emmanuel.
Qui part en 40 ans, qui nous a mis dans la merde. Ce type de personnes-là, en fait, qui nous ont mis dans la merde.
Ah, mais il est là, Emmanuel. Vous avez entendu ce qu'il dit, Gérald? Allez-y, Emmanuel.
C'est exactement le même type de colère que moi, à l'extrême opposé, quoi.
Ben voilà. Oui, parce que le problème, vous y avez cru, vous avez toujours voté, en fait, pour ces.
Vous avez cru aussi,
on y a tous cru. Arrêtez de voter pour les socialistes qui n'ont jamais rien fait pour vous. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait quoi depuis Mitterrand?
Il y a eu des conquêtes sociales qui, moi, me plaisaient, mais bon, ça, c'est ma liberté de conviction, cher monsieur. Tout simplement.
Merci Emmanuel, merci Gérald d'avoir été avec nous, merci à tous les deux. Vous voyez comme la discussion s'enflamme. Imaginez ce que ça va être quand on va être en pleine dans la campagne électorale.
Ça va être à table à midi, en fait. À midi, ça va être...
Alors, chaud. Mélenchon contre le Rassemblement National, scénario du pire ou du meilleur, 50-50.
Et voilà.
Ah. C'est très rare, hein. Meilleur scénario 50, pire scénario 50.
C'est longtemps qu'on n'a pas eu autre chose qu'un 92-8 ou un 91-7.
Ouais. Ça montre bien que les grandes gueules, c'est pluralisme.
Dans un instant, la gifle présidentielle. Est-ce qu'une actrice iranienne est à l'origine de la gifle de Brigitte Macron à Emmanuel Macron, à son époux? Le monde entier l'avait vu. Ben, on va continuer d'en discuter parce qu'il y a un livre qui crée la polémique. Restez avec les grandes gueules. Et si ça vous dit de réagir, comme Gérald et Emmanuel, vous avez le 32-16 à votre disposition.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
GG les grandes gueules en direct sur RMC, RMC Story. Dans 20 minutes, Patrice Duhamel avec nous pour parler du crépuscule des dieux, de ces malades qui nous ont gouvernés. Charles de Gaulle, Georges Pompidou, François Mitterrand, Jacques Chirac, ils sont restés au pouvoir alors qu'ils se savaient malades. Ils sont même arrivés au pouvoir en se sachant malades. Et là, c'était le grand mensonge auprès des Français. Patrice Duhamel avec nous. Le livre est aux éditions de l'Observatoire, les maladies des présidents. Les derniers mystères sont levés. Bah tiens, justement, parlons d'un président et d'une gifle.
Everybody! Hey, hey, hey! Hey, hey, hey! Everybody!
On fait dire à une vidéo beaucoup de bêtises. Nous sommes en train de nous chamailler et plutôt de plaisanter avec mon épouse.
For sure!
Everybody!
Petite production signée notre ami Louis Gerbier. Alors, vous vous souvenez, fin mai 2025, c'est-à-dire il y a quasiment un an, Brigitte Macron, vous voyez, on apercevait l'entrée de l'avion, avait porté un léger coup au visage de son président de mari.
Oui, c'était à leur arrivée à Hanoï, au Vietnam, et donc ouverture de cette porte d'avion présidentiel, et les caméras qui filment donc ce geste de la première dame. On la voit repousser de la main Emmanuel Macron au niveau du visage, un geste qui pouvait effectivement s'apparenter à une gifle. L'image a fait le tour du monde, tout le monde en a parlé. Tout le monde a essayé d'avancer des explications. Officiellement, comme l'a dit le président, c'était une chamaillerie dans un couple. Bon, donc un geste tendre, si on en croit Emmanuel Macron. Visiblement, la réalité est tout autre. En tout cas, si l'on en croit notre confrère Florian Tardif, qui sort un livre sur le couple Macron. Il sera d'ailleurs demain invité des Grandes Gueules face au GG. Et il dit que d'après ses informations, en fait... Le président de la République, à ce moment-là, était en train d'entretenir une relation platonique avec une actrice iranienne. C'est d'ailleurs peut-être l'actrice iranienne la plus connue aujourd'hui. C'est Golshifteh Farahani. Les deux s'échangeaient des messages, des SMS. Et Brigitte serait tombée sur un des messages échangés sur lequel était écrit « Je vous trouve très jolie ». Bon. Et là, visiblement, Brigitte la jalouse n'a pas supporté. Alors, est-ce que cette version, et voilà, vous y croyez? Est-ce que ça nous intéresse? Est-ce qu'on doit le savoir? Est-ce que on ne doit pas laisser la vie privée du président de cachée?
L'entourage de Brigitte Macron et Gilles Macron qui ont démenti ensuite,
bien entendu,
en disant que jamais c'était oui. Des billevesées et bien jamais ça. Elle ne regardait dans le portable de son mari. Joël.
Moi, j'avoue, j'ai pas cherché à savoir si c'est vrai ou pas parce que j'ai basculé complètement en mode soap opéra. Donc, je ne cherche plus la vérité.
Tu te laisses porter par l'intrigue.
Je me laisse porter par l'intrigue. Là, je suis en train de refaire le scénario. Je me dis, on est passé d'un président qui était martyrisé, entre guillemets, par sa femme un peu soumise, à Don Juan. Donc là, les cartes sont rebattues. Là, je suis en plein truc. Donc, première chose, c'est que cette actrice, moi, je la connaissais pas. Donc là, apparemment, elle va percer grâce à ce scandale.
Elle est très connue dans ce pays et elle a tourné dans tous les grands films iraniens, elle a tourné dans les films américains.
Mais c'est pas Angelina Jolie. Je veux dire, mainstream. Oui. Voilà. Donc j'imagine qu'avec ça, elle a un petit coup de projecteur. Donc même si c'est vrai ou c'est pas vrai, soit elle dément elle-même. Tu vois, parce que là, c'est en réalité, elle est la seule à pouvoir dire oui, c'est vrai ou non, c'est pas vrai. Voilà. Donc, soit elle dément elle-même donc, en disant non, écoutez.
Avec impatience sa réaction.
J'attends, et comment? Et alors, bon. Ou alors, elle laisse comme ça, planer le doute, voilà, silence total, et elle se ramasse un peu la lumière et tout, ce qui est aussi une bonne stratégie. Pour le président, en tout cas, en France, je veux dire, c'est pas quelque chose, on va pas déclarer la procédure d'impeachment. Là, entre Sarkozy qui a rattrapé sa femme à la volée et Hollande qui était sur un scooter. Enfin, je veux dire, nous pour nous, ça c'est un non événement. Hein, ça va rien faire, ça va rien changer politiquement.
François Mitterrand qui avait.
Et politiquement, oui, et
deux femmes en même temps.
Exactement.
Entre autres.
Au moins. Entre autres. Enfin, en tout cas, officiellement. Mmh. En tout cas, deux qui étaient protégés par la République. Antoine Diaz.
Moi, je pense qu'on ne va rien nous épargner sur l'année de mandat restant. Ça va être l'année la plus longue du monde. On a droit aux images du président Macron qui fait la police dans une conférence en Afrique, je ne sais plus dans quel pays. Voilà. On a le président Macron qui fait de la cuisine aussi en Afrique. Là, qui ces images ont tourné sur les réseaux sociaux.
Jog aussi avec un marathonien. Voilà.
Le show Macron va continuer.
On a désormais l'histoire cachée qu'on nous donne comme ça aujourd'hui. Bon, j'ai l'impression que on va essayer de masquer toute l'impuissance d'un président qui ne peut plus rien faire, qui ne fera plus rien pendant un an et qui va essayer de continuer à exister.
Donc attention à la diversion.
Voilà, non mais c'est même pas une diversion, c'est que en fait il n'a plus de pouvoir, le pouvoir s'est évaporé de ses mains, c'est-à-dire que il ne peut plus rien faire. Et donc pour continuer à exister, pour continuer à tenter de construire une image, on va enchaîner des petites histoires comme ça, les trucs pseudo intéressants, potentiellement montés pour moi montés par le président lui-même, par un entourage, on fait fuiter ça, on existe. J'ai pas d'informations, je sais pas si
on
précisément
posera la question demain
sur
Florian
cette
Tardif.
Histoire
est-il
de la
lui-même manipulé,
c'est monté
par l'entourage de Brigitte.
Moi, je pense que c'est juste pour continuer à exister alors qu'on n'a plus rien à faire.
Monsieur Bruno.
Alors déjà, ma première truc, c'est que je me dis que c'est que Macron est enfin un président comme les autres. Il a son scandale ou sa rumeur people, parce qu'on a quand même eu un président de la République dans les années 30, je crois qu'il est mort dans les années 1900.
Félix Faure.
Était mort dans les bras de sa maîtresse.
La pompe funèbre.
Mmh. On a eu Mitterrand, on a eu Pompidou aussi, qui a un scandale sexuel.
Pompidou, il y a un scandale.
Rappelle-toi sur sa femme.
Oui, d'accord.
Il
est monté toute pièce.
C'est
la déstabilisation. Les soirées libertines du couple Pompidou, il y a 10 ans.
Le cadavre dans le placard aussi à Delon. Enfin, tu vois, les histoires à l'époque.
Et l'affaire Markovic.
Ouais, et on a eu Mitterrand, on a eu Chirac, on a eu Giscard qui nous a quand même dit qu'il avait couché avec Madame Diana, les Didi, quand même assez extraordinaire. Ouais. On a eu Sarkozy avec bah, maintenant c'est sa femme. Il y a eu aussi l'histoire avec Laurence Ferrari qui ressort encore maintenant. Enfin, t'en as des histoires qui sortent un peu partout.
Là, je la connaissais pas.
Et donc en fait, t'en as comme des histoires. Et puis là, Macron, il en a enfin une. Macron, il y en a encore une. Ah, c'est quand même pas mal. Après, il y a un truc, on devrait s'en foutre. Sauf que depuis 10 ans, enfin 9 ans, il met en scène son couple dans la vie politique française. Alors que sa femme n'a pas été élue. Sa femme n'a pas été élue et sa femme n'est que la femme du président. Ah, ouais. Or, elle a changé la vaisselle et puis la décoration de l'Elysée pour des sommes folles.
Enfin, quelle horreur.
Non, mais en fait, ça veut dire qu'en fait, elle a.
Parce qu'elle l'a beaucoup cassée, c'est peut-être.
Voilà, peut-être oui, c'est ça. La vaisselle, on va apprendre que la vaisselle
mais
de Sèvres a volé.
Ce qui est intéressant, c'est que, en fait, c'est très hypocrite parce que faut-il ou non parler de sa vie privée, certains vont être choqués, mais en fait, d'une manière générale, on a toujours été passionné par la vie privée des puissants. Enfin, les maîtresses de Louis XIV. Enfin, on va pas refaire l'histoire de France
parce que toi, Louis XIV,
tu aurais remonté à Pompidou, mais enfin, tu peux faire, c'est l'histoire de France.
Oui, c'est l'histoire de France.
Et on est passionné par justement ce qui est caché. Et comme maintenant, en plus, on a des responsables politiques qui mettent beaucoup en avant leur vie privée, et c'était moins le cas avant.
Trop.
Pardon, mais le général de Gaulle
et
contrairement à ce que tu voilà. Et aujourd'hui, on met en avant, on fait des belles photos, on parle de sa femme, etc. Donc c'est vrai que quand ce qu'on nous montre n'est pas la réalité, ou en tout cas la réalité est un peu différente, bah c'est normal qu'on s'y intéresse.
Oui, mais c'est quand même un sujet où aujourd'hui, lui, il l'a trop mis en scène. Et en plus, je te dis, je crois que c'est la première fois qu'on a un couple à l'Élysée, en fait. Parce que c'est vraiment où elle a vraiment eu un rôle. Tout le monde t'expliquait qu'en fait, c'était elle qui avait choisi Blanquer et que c'est elle qui a influencé Blanquer sur les réformes scolaires. En fait, c'est un peu
chiant. Joël,
je trouve pas qu'il l'ait mis trop en scène. Madame Macron, elle est là. Elle fait sa vie, c'est deux, trois petites actions. Mais j'ai pas eu l'impression qu'on avait un couple présidentiel. Par exemple, quand tu regardes de l'autre côté de l'Atlantique, par exemple, Barack Obama et Michelle Obama, là, Ça faisait encore plus présidentiel que ce qu'on a là.
Dans l'affaire, l'affaire, c'est pas une affaire, mais dans ce, c'est vrai, c'est intéressant, c'est de retrouver les déclarations de Goldschmidt et Farhani, parce que elle a fait notamment cette interview dans Paris Match, qui date du 13 mars 2025. Et voilà ce qu'elle dit. C'est assez troublant. Elle dit, en France aussi, il y a la culture de la maîtresse et de l'amant. Pourquoi rester avec sa femme si nous ne sommes plus amoureux d'elle ou si nous sommes amoureux de quelqu'un d'autre? Ma théorie, c'est que tous les hommes français sont coincés avec leur mère. Leur première femme, c'est la mère qu'ils n'ont pas eue et ils ne la lâchent plus.
Ah ouais, là c'est troublant quand même.
Découvrir le poteau rose là.
Là c'est troublant là quand même.
Elle le dit en mars.
Elle le dit en mars 2025 dans Match.
Et la gifle est en mai.
Voilà.
Après que Macron il envoie à Gauthier qu'elle est très jolie, tout le monde l'aurait fait. Hein. Enfin, je veux dire Gauthier quand tu le vois, elle est très jolie.
Mais c'est là où je trouve que dans le bouquin de Tardif, c'est un peu, on n'y comprend rien parce que si effectivement ça fait réagir Brigitte Macron, on imagine que ça va au-delà du SMS. Bah,
oui, et puis c'est un peu, c'est peut-être pas platonique non plus. Enfin, à un moment donné. Moi, je veux dire,
il n'a pas tout dit.
Si on devait prendre une claque, nous les hommes, à chaque fois qu'on dit à une jeune femme qu'elle est jolie ou à une femme qu'elle est jolie, t'as nos gonzesses, ça nous tabasserait chaque tour. Hein, parce que mine de rien.
C'est pas le dire, c'est l'écrire. Bah, c'est pas la même chose. Quand t'es en couple ou que t'es marié et que tu envoies un message à quelqu'un en disant bah, je vous trouve très jolie, que t'as
le copine ou
si ton mari il écrit ça, qu'est-ce que tu fais? Il en prend une?
Bah oui, étranglement du cou.
Non, violence conjugale, je suis désolé. D'ailleurs, il n'y a pas d'avoir d'être complaisante avec une gifle, quel que soit le motif de la gifle.
Non mais par contre je voudrais pas vous mettre dans la nasse.
Alors moi je veux bien
t'as raison.
Je prends un exemple dans la vie politique. Adrien Quatennens, sa carrière politique s'est arrêtée le jour où on a appris qu'il avait giflé sa femme. Il a été écarté depuis, n'est plus député.
T'as raison.
Et dans tous les cas, et si Brigitte Macron avait peut-être des raisons de lui gifler, elle n'a pas la gifler.
Alors on va reprendre.
C'est une violence conjugale.
Tu ne serais pas content.
Non, je serais pas content. Oui, de toute façon je n'aurais pas giflé mon mari, mais je veux dire, je serais pas contente. Enfin, personne n'a envie de voir dans le portable de son chéri. Je te trouve très jolie. Enfin, voilà.
Mais c'est le boulot, après, Brigitte. Je suis président, je suis obligé de
faire des plafonds. Après, il y a une analyse qui est assez intéressante. J'en parlais hier avec ma fille qui a suivi cette affaire de la gifle. Et je lui demandais, mais tu penses que ça donne quoi comme image du président? Elle me dit, mais c'est plutôt l'image de Madame Macron. Pourquoi elle gifle son mari comme ça, alors qu'ils sont à deux pas de sortir d'un avion et tout? Et c'est vrai que ça nous a dit, bah, non, mais ça, on a beaucoup réfléchi à, ah bah oui, bah, il est faible, il est machin, etc. Mais, je veux dire, elle aussi, enfin, je veux dire, à un moment, qu'est-ce qui se passe dans le couple pour que tu te sentes si autorisée de foutre une baffe à ton mari? Enfin, je veux dire,
c'est peut-être aussi, on comprend peut-être un peu mieux ces dernières déclarations où on a dit que c'était un enfer d'être à l'Élysée et tout. C'était peut-être un enfer dans ce deuxième mandat, parce que peut-être que son mari, il était volatile.
Il y a une réaction amusante qui est arrivée, parce qu'il y a eu énormément de tweets à propos de cette histoire. Et puis, il y a l'équipe des GG, Louis Germier, qui en a revu un qui était marrant et qui avait été écrit en anglais. On l'a traduit. Et c'est « En France, une amitié platonique avec une femme est considérée comme une forme bien plus grave d'infidélité qu'une liaison sexuelle. » Parce que les Français sont un peuple civilisé qui comprend que l'amour platonique est une forme d'amour plus élevée que le simple culte de la chair. Voilà.
Comme le tantrisme.
Pensée complexe, hein. Je comprends pourquoi il s'apprécie.
Ouais. Demain, on en reparlera. On y reviendra avec Florian Tardif, puisque c'est lui l'auteur de ce livre, Un couple presque parfait aux éditions Albin Michel. On verra ce qu'il pense de toute cette polémique qui est née de ce qu'il écrit dans son livre. Alors, soupçon de maîtresse à l'Élysée, est-ce que ça nous regarde? Oui ou non. On va voir ce que vous en pensez. Vous dites non à 65%. Dans un instant, justement, les présidents, on va en parler avec Patrice Duhamel, les présidents malades qui nous ont gouvernés.
RMC, 9h midi, les grandes gueules.